sauver des bébés Trix, de sauver des bébés Trix. Ne présente pas ta colombienne ou elle deviendra mienne. En bas de chez moi, tout le monde est ribou. Ça marche de
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences. Flash, un mercredi sur deux à 19h sur Radio G. Il est 19h sur Radio G, vous êtes avec nous sur Pop Flash. Je suis accompagné de Mel, coucou Mel.
Coucou.
Et de Claire.
Hello.
Et on se retrouve pour une émission de plus. En espérant
sans déconner.
Sans déconner, en espérant que vous n'en ayez pas marre, pour parler du coup des dernières news et de ce qu'on veut un peu par rapport à Pop Flash. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler dans un premier temps du coup dans Game Pop avec Mel des différentes news qu'il y a eu, notamment avec surtout une entreprise française du nom d'Ubisoft qui est en train de... Bon, bref, vous verrez bien.
Je ne sais pas comment le prononcer. Est-ce Ubisoft, Ubicoft, nous ne connaissons pas.
Exactement. Et on parlera dans une deuxième partie de Game Pop d'un petit jeu fait par des Français, encore en développement, qui est... En gros coup de cœur pour moi, je vous en parlerai.
Bien.
Tarpin bien, tiens en aigle le jeu, en aigle.
Tiens le sang.
Mais suite à ça, on parlera de Game of Thrones avec Claire. Et on finira par parler des Lames du Carnidal qui est en JDR, que j'aime particulièrement et qui est assez bien. Donc, on espère que vous allez bien, évidemment. Et sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va tout de suite commencer avec Game Pop. Mel, c'est à toi.
Oui, alors, dans Game Pop, attention, c'est alerte au drama. Prenez votre petit thé parce que c'est assez bouillant. Donc, Ubisoft, entreprise de développement et de distribution de jeux originalement français, fait scandale. Et en effet, nous sommes même pas fin janvier que l'entreprise est déjà en chute libre. Déjà, pour commencer, en 2003, Ubisoft avait déjà pour projet de restructurer son entreprise qui est étendue à l'international. Mais c'est qu'en janvier 2006 qu'on apprend ce qu'ils voulaient dire. Et effectivement, ils ont décidé de restructurer l'entreprise en Creative House. Et je mets bien des guillemets, mais vous ne le voyez pas. Mais je mets bien des guillemets, vous allez voir pourquoi. En fait, les Creative House, qu'est-ce que c'est? Ce seront 5 studios un peu éparpillés qui sont regroupés par thème de jeu. Donc chacune aura pour thème les AAA blockbusters, FPS, jeux live service, jeux narratifs avec univers fantasy et jeux familiaux casual. L'idée, c'est de recentrer afin de produire et d'avoir une meilleure production et une meilleure rentabilité. Sauf que qui dit restructuration dit aussi licenciement, et pas qu'un peu, parce qu'il y a plusieurs boîtes d'Ubisoft qui ont fermé, comme Ubisoft Halifax au Canada, mais aussi à Stockholm en Suède, et des licenciements massifs également à Ubisoft Abu Dhabi. Et apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises avec les licenciements, donc attention. Si vous voyez des chiffres, c'est pas encore les chiffres officiels parce qu'il va y en avoir d'autres. Mais les Creative House qui sont clairement étiquetés par genre posent aussi un problème pour les petits studios, parce que c'est pas nouveau, on le sait, que des studios, surtout au début, ça peut toucher un peu à tout. On peut faire, il y a des studios qui font du RPG mais qui font aussi des FPS, qui s'étendent. Sauf que du coup, ça pose problème. Mais du coup, ouais, les studios qui sont à leur début et qui ont fait plusieurs jeux différents, genre FPS, RPG et par exemple jeu familial. Bah, comment ils vont faire? Ils vont se splitter dans chaque creative house, sachant que les creative house ne seront pas toutes au même endroit. Logique. Donc du coup, ça veut dire qu'un studio aura ses développeurs un peu éparpillés partout. Sachant qu'en plus, Ubisoft a dit « On va créer les creative house avec les étiquettes de jeu. » Mais ils n'ont pas dit comment ils allaient faire pour ce genre de problématique, par exemple. Donc du coup, il y en a beaucoup qui sont en mode bah, « C'est la merde pour nous, on va faire comment ?» Donc, possiblement, ce que les gens pensent, c'est qu'ils feront avec ce que le studio a fait de plus. Donc si, par exemple, vous avez fait 3 FPS et 2 RPG, et ben, vous allez aller dans la catégorie FPS. Voilà.
Oh. Ça veut dire qu'ils vont grave les bloquer dans un truc, quoi.
Exactement. Non,
ça veut surtout dire qu'ils vont mettre la clé sur la porte. Hein.
Ah ouais, enfin, non, mais. Attends, on va en venir. On va y venir. T'inquiète, parce que c'est pas fini. Donc, ça devient un frein créatif, ce qui est assez cocasse pour une creative house, effectivement.
En effet.
Comme le dit Claire, et ben ça va être un frein créatif parce que ça veut dire que le studio, ben, s'il veut un jour faire un jeu fantasy, mais que avant ça il faisait que des FPS, et ben il est dans la merde concrètement. Côté travail, c'est pas fini parce que du coup, puisqu'ils ont retiré le droit au télétravail des employés Ubisoft et donc ils seront obligés d'être dans les locaux 5 jours par semaine. Sauf que ça oblige la mutation de beaucoup de travailleurs qui poussent à la démission et
qui poussent à la salle,
mais surtout à la démission.
Tu sais pourquoi ils font ça, hein?
Mais en fait,
pour
moi,
les surveiller.
C'est pour éviter les licenciements, soient poussés à démissionner plutôt que des licenciés.
S'ils licenciaient, voilà. Ils devraient payer énormément d'indemnités.
Et ils ont déjà assez payé beaucoup.
J'attends que tu finisses et voilà, continue.
Oui, mais on débrief après. Mais c'est pas fini. Et oui, parce que avec Ubisoft, c'est jamais fini.
Possible avec la carte qui.
Oui, mais je te jure. Mais dans la foulée, on a appris que 6 jeux ont été annulés, sans report ni rien. C'est vraiment annulé. Il y en aura plus jamais. Notamment Prince of Persia: Sands of Time, qui était attendu depuis des années par des fans. Et je vois le visage de Claire qui est dépité. Tu ne le savais pas?
Non, je le savais pas, mais surtout je trouve ça dégueulasse parce que bon, oui. Ok, ils sont dans la merde et du coup ils vont genre forcer les gens à changer de boulot, mais en plus il y a des gens qui ont bossé pendant putain des années entières.
Ouais.
Pour une saga qui vaut des milliers d'euros, enfin et de dollars, hein, attention, on ne discrimine pas. Pour ça, putain, c'est.
Actuellement, ils n'avaient qu'à pas bosser, hein, ça leur apporte pas.
Même la communication autour de Prince of Persia, du coup, les développeurs et tout ça, bah, ils ont mis une annonce sur leur site en disant bah, Prince of Persia, bah, c'est fini. Donc.
C'est une catastrophe.
Pas
c'est
ouf.
Honteux.
Mais donc,
c'est,
du coup, il y a eu honteux. Ça, mais par contre, ils n'ont pas voulu s'étendre sur les 5 autres projets annulés. On sait juste qu'il s'agissait de toutes nouvelles licences avec des univers de fantasy et de tout nouveau univers et un jeu mobile, mais on n'a pas les noms et si vous, les noms n'étaient même pas encore actés. Donc, voilà. Il reste assez.
Ils ne seront jamais. Hein.
Ouais, mais du coup, ils sont restés assez vastes sur les 5 autres, à part Prince of Persia, parce que c'était le plus attendu et le plus connu, je pense, parmi les autres, vu que c'était une licence. Et il y a 7 jeux qui ont été reportés, passant de possiblement à 2026, à 2027, peut-être même plus tard pour certains, notamment. Possiblement le remake de Assassin's Creed Black Flag qui serait en train d'être refait encore une fois pour prendre plus de temps mais avoir une meilleure production.
Laissez Assassin's Creed mourir, quoi, je vous en supplie.
Voilà. Mais du coup, avec tout ça, Ubisoft voit donc ses actions chuter entre 33 et 39% en une seule fois. Voilà, record historique pour l'entreprise créée en 96, qui a donc presque 30 ans. Plus que même 30 ans, du coup. Et la firme s'attendent à une perte de plus de 2 milliards d'euros et ils ont retiré leur prévision pour 2026-2027, ce qui laisse paraître une incertitude sur l'avenir de la boîte. Voilà. Comment dire?
Comment dire?
Je pense qu'Ubisoft est dans la merde. Alors, s'ils se retournent, tant mieux. La Creative House est censée être un tremplin pour pallier justement à cette chute, etc. Moi, je pense que la Creative House fait partie de leur chute, honnêtement.
Oh, pardon.
J'espère que ce sera ajouté au blooper. Il faut qu'on soit sorti.
Bloopers.
Mais. Je sais que j'ai des potes qui pensent que ça va rebondir, que du coup c'est le moment d'investir en bourse chez eux, tout ça.
Ouais.
Sincèrement, vous pouvez penser ça, hein, mais je pense que c'est une perte d'argent parce que. Enfin, encore une fois, ça fait un bout de temps qu'Ubisoft est dans la merde et qu'en fait on voit leur. Oui. On voit leur douche chute et. C'est triste parce que c'est en fleuron entre guillemets du jeu vidéo français, mais il y a un vrai mais, ça fait des années que plus Ubisoft avance, plus ils nous font de la merde.
Ouais, alors.
Et en fait, leur chute était genre prévisible.
Ouais, sachant que en plus, en 2022, ils avaient été épinglés pour des cas d'employés en burn-out à cause de leur méthode de travail.
Mais
qui
pas
était
que ça, il y a des agressions aussi.
Il y a eu notamment des agressions et des harcèlements et beaucoup de harcèlement.
Il y a eu des suicides aussi, je crois.
Ouais, donc Ubisoft avait été déjà dans la merde par rapport à ça, mais ils avaient déjà fait une restructuration un petit peu avec des studios qui avaient fermé, etc. Ils avaient essayé de se concentrer uniquement sur des triple A, sauf que du coup, avec la méthode de pression qu'ils ont eu,
c'est de la merde qui sort. Faut le dire à un moment. Ouais.
Ils prennent pas de risques, on l'avait déjà dit. Ils prennent plus de risques.
Et là, ils vont plus prendre de risques du tout. Et surtout, les Creative House qui enferment directement les développeurs dans une catégorie. Et en fait, ils vont devoir rester là-dedans.
C'est ça, les Creative House, c'est un aveu d'échec. Et pour moi, je vois ça juste comme un géant qui est en train de doucement pourrir de l'intérieur, qui essaye de pousser genre un dernier cri pour appeler à l'aide. Sauf que. Il y a un monde où peut-être qu'il va y avoir un fonds d'investissement qatari, américain ou autre, mais encore une fois, est-ce qu'on a vraiment envie que Ubisoft continue? Je veux dire, ok, Ubisoft nous a fait des très bons jeux. Il nous a fait des jeux qui ont marqué notre enfance pour certains. De mémoire, c'est eux qui ont fait Rayman. C'est eux qui ont fait beaucoup de très bons jeux, sauf que ça fait... Oh putain, je ne saurais pas me rajeunir ce que je veux dire, mais ça fait genre, allez, 15 ans qu'ils font plus que de la merde.
Non, peut-être pas autant.
Donne-moi un bon jeu qu'ils ont sorti en 15 ans.
J'en sais rien parce que je suis pas une
grande... Black Flag, c'est tout.
Je suis pas une grande fan des... Attends, je vais te dire. parce que je suis pas une grande fan de Ubisoft parce que leurs jeux ne me touchent pas particulièrement en règle générale. Par contre, ce que je sais, c'est que beaucoup de gens spéculent sur le fait que ce sera Tencent qui va racheter Ubisoft. Et du coup, si Tencent rachète Ubisoft, il y a un moyen que, effectivement, Ubisoft remonte la pente. Mais.
Tencent qui est en train de racheter la moitié du game.
C'est ça. Ouais. Donc, en gros, en fait, est-ce que c'est une bonne chose que Tencent rachète la moitié du game parce qu'ils sont en train de se faire un putain de monopole?
Ouais, c'est un
Tencent a des bons trucs, ok, mais d'un autre côté, le modèle League of Legends Valorant de XKO, voilà, j'ai des choses à dire, hein. Les skins qui ne t'appartiennent pas vraiment, que tu ne peux pas revendre à genre 100 balles, le fait qu'il t'oblige à mettre en anti-cheat qui littéralement a les mêmes droits d'administrateur que toi sur ton PC, là, genre, anecdote qui s'est passée, ça s'est passé il y a 3 jours, j'allais jouer avec des potes à Valo. Bon, j'ai désinstallé le jeu parce que...
Parce que c'est Valo.
Mais du coup, visiblement, leur anti-cheat de mort, c'était pas bien allumé. Et le jeu, quand je l'ai lancé, a redémarré mon PC sans me demander mon autorisation.
What?
Ouais, non, mais c'est pas étonnant. Enfin, oui. C'est comme le nombre de fois où les anti-cheats t'empêchent de jouer à des jeux parce que, ils ont pas envie.
Oui, voilà, c'est ça.
En fait, c'est juste... hyper intrusif, que ton jeu ait un anti-cheat pendant que tu lances ce jeu-là. Oui, mais dans le script, t'es pas censé avoir des pouvoirs sur d'autres jeux ou des trucs comme ça.
Et le meilleur là-dedans, c'est que l'anti-cheat, ils disent que c'est le plus, et c'est vrai, c'est peut-être le plus, qui peut trouver le plus de tricheurs, mais.
En même temps.
Le nombre de tricheurs qu'il y a encore sur Valo, le nombre de personnes qui se meurent, genre, en fait, ça règle pas. Tu mets juste, on va pas se mentir. Vanguard étant virus.
Bah, en tout cas, c'est une belle invasion, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et là, je suis en train de regarder les derniers jeux qu'ils ont sortis.
Après, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas tant de cheaters sur le jeu, puisqu'il y a la moitié de leur PC en train de redémarrer.
Ouais, je pense.
Et donc, vraiment, je pense pas que Tencent va racheter Ubisoft. J'espère pas. Parce que, bah, encore une fois, les Creative House. Mon Dieu, mais quelle idée, quoi.
Alors, en fait, sur le papier, c'est pas une si mauvaise idée d'avoir des zones, mais par exemple dans un seul et même entreprise. Là, les Creative House, ça sera pas genre dans un studio, ça sera vraiment des locaux où ce sera, ben voilà, toi t'es FPS et puis c'est tout, quoi. Et c'est là où ça pose problème, parce que sur le papier, ça peut être bien d'avoir des Creative House pour justement partager, pour que plusieurs studios se rencontrent et partagent leurs idées,
évidemment.
Etc. Ça aurait été une bonne idée s'ils avaient fait quelque chose de plus équitable, déjà.
Sauf que Ubisoft a fait d'Ubisoft, c'est-à-dire de la merde.
Et des choses un peu plus concrètes, quoi. Mais là, en plus, du coup, beaucoup des employés d'Ubisoft disent bah, en fait, ça met une pression de ouf. Parce que, en fait, on va devoir produire et on va devoir faire de la qualité triple A pour chaque jeu, pour chaque catégorie de jeu où ils seront. Parce que, vu qu'ils seront dans des Creative House, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Parce que
c'est leur domaine, quoi.
Voilà, oui. C'est leur domaine. Donc, si c'est dans ton domaine et que t'es pas capable de le faire, eh ben, tu dégages.
Bonjour, le cauchemar, ça veut dire que toute ta vie, tu fais un jeu RPG, encore et encore après. Ouais.
Non, mais encore une fois, ils sont en train de pousser les gens à démissionner.
Ouais.
Enfin, ils sont juste en train de préparer le fait que la maison est en train de brûler.
Oui.
Et en fait, plutôt que de payer toutes les personnes qui ont construit cette maison à la juste valeur, ils sont en mode, non, mais en fait, maintenant, il faut juste les enfumer et les faire partir.
Ça. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a tellement eu de licenciements là, d'un coup, que je pense qu'ils
ont dit, bon, le droit non plus
pas pousser. Ouais, ben là.
Je suis en train de voir le temps, je suis désolé, on va devoir passer à autre chose.
Mais oui, bien sûr.
C'est triste.
Bah, en fait, je trouve ça triste parce qu'il y a de plus en plus de gros studios qui se cassent la gueule. Et il y a les conditions humaines. On avait vu ça aussi avec Activision.
Faut qu'on avance, je suis désolé.
C'est la merde.
C'est la merde, et à mon avis, il faut juste dire, comme avait dit, je sais plus comment il s'appelait, cet homme qui n'est pas encore mort, salut mon pote, et on se reverra dans une autre vie. Allez, deuxième partie qui est un peu plus
joyeuse.
Amusante. Comme certains ici le savent, je suis dans une asso de jeux de rôle. Qui aurait pu le prévoir? Je vous l'ai dit quelques fois. Mais c'est pas grave.
Peut-être.
On a, avec cet asso, on a eu la chance de travailler avec deux personnes qui créent leur jeu. C'est deux personnes qui sont des personnes françaises, qui habitent du coup dans le centre et qui ont décidé de créer un petit jeu qui s'appelle Red Hall. Red Hall. Red Hall, c'est le. C'est plutôt. Alors, j'ai du mal à le dire, mais voilà. Mais du coup, le truc là-dedans, c'est que c'est un jeu un peu à la Among Us, Loup-Garou, tout ça, où on est mis dans la peau de chaperon.
Ok.
Qui se baladons dans des villages, et on a évidemment des missions à faire, tout ça. Sauf que, dans ce village, il y a des loups-garous. Et les loups-garous veulent nous tuer. Mais il n'y a pas que des loups-garous. Il y a des politiciens. Il y a des croque-morts. Il y a des. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles. Certains qui sont des rôles qui vont bien. Il y a un rôle qui s'appelle l'assassin. Où le but, c'est. T'as 4 cibles. Et il faut que tu tues tes 4 cibles pour gagner.
Okay.
Et t'as une cible par jour. Et le jeu. D'un point de vue purement de la DA, il est giga pipou. Genre, vraiment, le jeu est pipou. Et ce qui rend le tout très très Donc Red Hall, je dis un R-E-D-H-O-W-L-D.
Oh, ok.
Je sais pas comment. J'ai du mal à le dire. Je sais pas comment le dire exactement.
Red Owl.
Red Owl, oui. H-O-W-L.
La chouette rouge, genre.
H-O-W. Ah putain, j'ai dit n'importe quoi. R-E-D-H-O-W-L. Oui, c'est la chouette rouge. C'est la chouette rouge.
Ok.
Et du coup, ben, on peut jouer jusqu'à 10. Et ben, on est lancé du coup dans ce village. Et le but, c'est de faire toutes nos missions pour récolter assez d'argent et partir. Évidemment, à côté de ça, il y a des loups-garous. Il y a un système de jour et de nuit. Et la journée, les loups-garous ne peuvent pas tuer et doivent se faire passer pour des villageois. Et le soir, voilà, c'est.
Toi, ça va pas trop bien.
Force à tous et voilà. En sachant que du coup, il y a beaucoup de très bonnes idées. J'ai pensé notamment au chasseur qui n'est pas comme dans le loup-garou de base où en fait, c'est quand tu meurs, tu peux tirer sur quelqu'un. En fait, le chasseur, s'il a des suspicions envers quelqu'un, il peut y aller et lui mettre un coup de hache. Si
ça s'appelle un sociopathe. Hein,
oui. Si la personne est innocente, bah, le chasseur meurt. Si la personne était en effet un loup-garou ou un assassin, ou quelqu'un lié au loup-garou, parce que oui, il y a des rôles qui sont liés au loup-garou, bah, la personne meurt. Mais du coup, ça, c'est des trucs qui sont là. Mais du coup, on peut aussi jouer vachement sur tout le côté du. Les deux loup-garous se baladent, t'as le chasseur qui vient, qui bute le loup-garou, et t'es en mode. Bah, c'est l'assassin. Parce que. Il y a des moyens de savoir, mais évidemment, s'il fait ça à la fin de la journée et que du coup, il va y avoir un conseil, parce qu'évidemment, il y a toute la question de conseil, va falloir discuter, ça c'est très loup-garou, ça fait très loup-garou, et à la fin, bah, il faut voter, et si personne n'est voté, personne ne va à la guillotine, et si quelqu'un là, bah, il se fait couper la tête guillotine. Le jeu, encore une fois, est très pipou, ce qui fait que bah, c'est très agréable, il y a une très bonne ambiance, la musique est cool, les graphismes sont très très cool, et bah, c'est fait par un petit studio.
Venom Studio, ouais.
Le jeu est encore en développement, donc n'hésitez pas à aller le wishlist parce que bah, ça les aiderait énormément. Je sais que personnellement, avec la taverne, on va encore faire des playtests si vous voulez voir. Sans jouer avec
des potes.
Il y a
déjà un petit teaser en ligne d'ailleurs, oui. N'hésitez pas.
Oui.
Il y a un teaser sur Steam, vous pouvez le mettre en wishlist du coup. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur Instagram, vous tapez REDHOWL-6 game GAME et vous allez les trouver. Vous pouvez pas le rater et vous avez un lien dans la bio et puis vous avez Steam Wishlist. Vous cliquez dessus et puis après vous cliquez sur ajouter à la liste de souhaits.
Petit plus aussi si vous cherchez Red Hall oui. Venom Studio sur Google Classic.
Voilà. Petit plus, les développeurs sont adorables.
Oui.
Les développeurs sont adorables. Et voilà, c'est un jeu à faire entre potes, c'est un jeu que, enfin, je sais que je le prendrai quand il sortira parce que gros coup de cœur. C'est très simple hein, comme jeu. C'est en loup-garou.
Mais inspiré du petit chaperon rouge.
Oui, voilà, avec beaucoup de très bonnes idées. Et le pire là-dedans, c'est que hier, du coup, on a fait le jeu et on a pu faire nos retours. Et il est en mode, oui, on sait qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Il y a des trucs qui vont être ajoutés. Il y a encore plein de trucs qui veulent rajouter. Et bon, après, ça c'est le petit période de jeu qu'on a dans le hub de base. Il y a un canapé sur lequel on peut sauter. Et je crois qu'on a passé plus de temps sur le canapé à sauter qu'à jouer au jeu à un moment.
Très bon jeu, top.
Parce que juste, on était en mode, on veut aller sur la porte. En fait, on pouvait sauter sur la porte et se bloquer. Et on était en mode, on veut faire ça. Du coup, un peu bête, mais le jeu est très cool.
C'est bien, en vrai.
Oui, j'ai vu qu'en plus, dans le teaser, on pouvait pêcher, on peut couper des arbres,
oui, voilà,
on peut
construire des trucs aussi, je crois.
C'est, ouais, c'est archi mignon, c'est un mélange de loup-garou, mais un peu RPG où tu peux faire ta petite vie dans la map, oui. Et tout ça. Je trouve ça cute, en vrai.
Il y a plein de méthodes aussi de mener l'enquête. Un truc tout bête, une fois, j'ai été l'assassin. Début du jeu, bah, y a la personne que je veux tuer qui est là. Du coup, je lui mets un gros coup de chlasse et je suis content.
Oui.
Et du coup, je peux prendre le bateau pour me téléporter à l'autre côté de la map. Et je me dis, le jeu vient de commencer il y a 30 secondes. Il n'y aura personne de l'autre côté. Je me TP, il y a deux personnes.
Surprise.
Ils me disent coucou. Moi, je suis en mode, ah, comment ça va? Je me casse. Et j'étais en mode, il ne faut pas prendre le TP. Ah, si, ils ont pris le TP. Ils n'ont pas suivi. Non, moi, je suis parti. Et du coup, au moment où il fallait qu'on discute bah, pour savoir qui c'était, personne n'arrivait à faire ça. Et j'étais en mode, bon, c'est bon, ils n'ont pas cramé qu'il y ait eu mort. Et il y a vraiment, genre, un de mes potes qui a fait, bah du coup, t'aimes bien la pêche ou pas, Carou? Parce que t'es parti en voyage, hein, je te dis, non, je vois pas de quoi tu parles. Et t'as... Si, t'as pris le bateau et il y avait un cadavre au niveau du bateau.
Ah bon? J'ai dû le pêcher.
J'ai dû le pêcher, c'est pas ma faute. Et du coup, non, le jeu est très cool. Je sais pas trop qu'en dire de plus sur le fait que, allez le wishlist, ça aidera les gens. C'est des gens sympas.
Ils estiment qu'il sortira d'ici combien de temps, ils savent ou pas?
À mon avis, d'ici 6 mois, non.
Ok, ça
je
va.
Je pense. Encore une fois, ils sont deux, donc peut-être que ça durera plus longtemps, mais.
Non, mais ça a l'air déjà assez abouti en plus.
Oui, c'est...
Pour faire des playtests, ouais.
Non, c'est déjà très abouti. On peut jouer jusqu'à 10. Hein.
Et... J'ai vu entre 4 et 15 joueurs.
Entre 4 et 15 joueurs, nous on était 10. Pour le playtest, on était 10. Mais voilà, du coup, allez-y. Et sur ce, ça va être la fin de Game Pop et on va passer tout de suite à notre première musique. C'est un artiste angevin. Ça s'appelle, la musique s'appelle Sans toi. C'est fait par Giorgio. Il a fait en concert il y a pas longtemps.
C'était vendredi soir. N'hésitez pas, il passe au Mans bientôt ou à Rennes bientôt. Les places sont pas chères et c'est un putain de showman.
Wow. Et ils sont un putain de rappeur aussi.
Aussi.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est la journée sans toi, bloqué je fais les 100 pas, j'attends ton message. Sans toi, passer la journée sans toi, bloqué je fais les 100 pas, j'attends ton message. Tu m'as promis des choses, tiens gratuit tes promesses. Ce soir je dessine des plans sur une comète. J'attends que ça sonne ou que mon téléphone vibre. J'attends un signe et de revoir tes pommettes. On en a navigué, je voulais plus rentrer. Je peux pas nier, tu m'as piqué. Posé seul sur un banc, je souris tout bêtement. À la base on se voyait que comme ça. T'attendais rien de moi et je crois que ça me rassurait. J'ai jamais cru aux relations, je finissais souvent par saturer. J'avais l'impression qu'il y avait toujours mieux. À croire que tu méritais plus, pourtant j'étais le problème. Résultat j'ai pris mes distances. À ton premier je t'aime et j'ai regretté. Ah oui j'ai regretté. T'étais à New York, je pensais qu'à toi, qu'à être à tes côtés. On s'appelait en FaceTime, j'attendais ton retour, j'espérais que tu te souviennes. Nos moments ensemble, des films qu'on partageait, mais j'ai pas une nouvelle. Sans toi, passer la journée sans toi, bloqué je fais les 100 pas, j'attends ton message. Sans toi, passer la journée sans toi, bloqué je fais les 100 pas, j'attends ton message. Tu m'as promis des choses, tiens battu tes promesses. Ce soir je dessine des plans sur une comète. J'attends que ça sonne ou que mon téléphone vibre. J'attends un signe et de revoir tes pommettes. On a navigué, je voulais plus rentrer. Je peux pas nier, tu m'as piqué. Posé seul sur un banc, je souris tout bêtement. On s'endort près de l'autre chaque nuit. Aujourd'hui est différent. Je déteste voir couler tes larmes. Mon index qui efface cette rivière de diamants. Quand tu saignes en moi, c'est l'hémorragie. Et je serais prêt si tu veux donner la vie. Tu pourrais me rendre fou, m'amener en thérapie. Je te regarde, j'ai un aperçu de mon paradis. Quand on fait l'amour dans la nuit, prends mon cœur silencieux et traduit. T'aimerais que je me livre plus facilement. La gorge nouée, les yeux qui scintillent. Je te parle des choses que j'ai enfouies. Celles qui m'est affaire à sang. Tu me rassures, je te rassure et je te dis. Impossible que je continue ma vie sans toi. Passer la journée sans toi. Bloqué, je fais les 100 pas. J'attends ton message. Sans toi, passer la journée sans toi. Bloqué, je fais les 100 pas. J'attends ton message. Tu m'as promis des choses, tiens battu tes promesses. Ce soir, je dessine des plans sur une comète. J'attends que ça sonne ou que mon téléphone vibre. J'attends un signe et de revoir tes pommettes. On a navigué, je voulais plus rentrer. Je peux pas nier, tu m'as piqué. Posé seul sur un banc, je souris tout bête.
Sans toi, bloqué je fais les 100 pas, j'attends ton message. Sans toi, passer la journée sans toi, bloqué je fais les 100 pas, j'attends ton message.
Et on est de retour. Donc, c'était Sans toi de Giorgio. J'espère que ça vous a plu. Juste avant qu'on reprenne avec du coup ça, parce que j'ai oublié de le faire. Est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer, Claire, Mel?
À Red Hall?
Oui.
Bah franchement, ouais, j'aime bien. Surtout, ça me rappelle l'époque Covid et confinement où on n'arrêtait pas de jouer au loup-garou en ligne et tout ça. Je ne sais pas si tu te souviens.
Je m'en souviens très bien.
Mais on n'arrêtait pas de faire ça et c'était grave cool. Et ben, je trouve que c'est bien de retrouver ce petit aspect loup-garou en ligne. Donc, ouais, franchement, je pense qu'il y a du potentiel.
Et toi, Mel? Et toi, Claire?
Grand pareil. En vrai, je pense pareil. Genre, cette époque où on faisait tout, genre, on dessinait et tout, on devait deviner des mots. Genre, bonne époque de ouf, ça me tente très bien de le faire.
Okay. Ça me tente bien, le confinement.
Moi, j'aime bien le confinement, voir personne, tout ça.
Ah bah ça, je m'en parle pas.
Oh purée, les 15 heures de Animal Crossing par jour, là.
Mais sur ce, du coup, là, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de Game Pop. Et on va passer tout de suite
de Game
à...
C'est la fin.
Qu'est-ce qu'on lit ou qu'est-ce qu'on regarde?
Bah les deux.
Bah les deux.
Qu'est-ce qu'on regarde?
Ça vaut mieux regarder pour lire, j'ai envie de te répondre.
Bah exactement. Wow. Bah du coup, Claire, c'est à toi.
Hey, comme vous le savez, je déteste les sagas, bien entendu, c'est connu. Donc je reviens encore avec une saga cette semaine. Avec surtout de l'actualité, parce que récemment est sorti le premier épisode du dernier spin-off de Game of Thrones. Autant dire A Night in the Seven Kingdoms, qui est un spin-off sorti du coup la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est une série qui aura 8 épisodes à peu près, il n'y a pas annoncé de saison 2 pour l'instant, et qui cette fois-ci parle aujourd'hui de Dunk et Egg. Donc Dunk, c'est un chevalier errant, et Egg, c'est son petit écuyer tout mignon, tout chauve. C'est pour ça qu'il s'appelle Egg, il faut le savoir. C'est évidemment basé sur les nouvelles de R.R. Martin. Je ne sais plus quelle date c'est sorti, mais il faut... Pour la timeline, il faut se baser sur le fait que c'est 90 à 100 ans avant les événements de Game of Thrones, ce qui est quand même vachement plus avancé pour le coup que House of the Dragons, qui était bien plus avant. On est sur une série très différente des deux autres, il faut le savoir, c'est un peu la première chose qui m'a choquée. Game of Thrones, pour moi, c'est très extravagant, très dramatique... C'est grosse musique, grosse intro, des drames politiques et tout ça. Là, on n'est pas vraiment sur le même mood. C'est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus humaniste aussi, parce qu'en fait, on ne suit pas un chevalier d'une grande maison. On suit vraiment juste vraiment purement un chevalier errant. Et dès la première scène, enfin, je veux dire, le ton, il est donné, quoi. C'est un chevalier errant. Il n'a pas de thune, mais par contre, il a 3 chevaux. Et c'est déjà très bien, j'ai envie de vous dire, c'est déjà plus que ce que je ne possède. Donc on est content. Je voulais quand même revenir, bien entendu, assez rapidement sur Game of Thrones, même si c'est un événement, c'est un monument, c'est tout ce que vous voulez, la Tour Eiffel s'en souvient encore. Les premiers livres sont sortis en 1996, écrits par R.R. Martin. Le premier s'appelle A Song of Ice and Fire. Il faut savoir que la saga, à l'heure actuelle, n'est toujours pas terminée. Je doute du fait qu'un jour elle soit terminée, mais c'est pourtant un auteur très prolifique. C'est juste que je pense le fait qu'il se soit concentré sur les séries fait qu'il n'avance pas sur ses bouquins. C'est pour ça que la saga principale, d'ailleurs, s'est finie en 8 saisons et que la fin n'était pas écrite quand la série s'est finie. C'est comme ça, c'est R.R. Martin, on le connaît. Et dedans, notamment, il a écrit ces nouvelles-là. La série, elle, qu'on connaît assez bien, elle a commencé en 2011, elle s'est finie en 2019 sur une fin assez controversée. Après 8 saisons, évidemment, ça n'a quand même pas refroidi les fans, puisque en 2022 en tout cas, est sorti The House of Dragons.
Et oui,
en
2022 déjà.
C'était il y a 4 ans. C'est une série aussi qui pour l'instant a 2 saisons, si je ne me trompe pas. La 3e et la 4e sont déjà validées et sortiront. Elles sont en travail en tout cas. Ce qui est une très très bonne série. Moi j'avoue que je ne sais pas si vous l'avez regardée vous.
On doit la regarder. Oui. C'est dans notre watchlist depuis un bail.
Ouais.
Mais on l'a toujours pas regardée. On doit. Ouais.
Banger. Ouais. Absolute banger. On va pas se mentir. Celle-là, du coup, c'est un peu différent. Game of Thrones suivait vraiment des événements, du coup, à l'époque de Game of Thrones, sur la lutte des pouvoirs et qui aura le fameux trône de fer, comme on dit en français et en Québec. Et pour House of the Dragon, pour le coup, on suivait les Targaryens bien longtemps avant, à l'époque où les Targaryens étaient encore au pouvoir. Donc c'est ça qui était très sympa sur cette série, qui est toujours aussi sympa, et j'ai vraiment hâte aux prochaines saisons, parce que franchement l'évolution des personnages est tellement bien écrite, et je pense que ça vient du fait que R.R. Martin est toujours producteur sur toutes ses séries, il a toujours un peu le regard là-dessus. Là, vraiment, A Knight of the Seven Kingdoms, ça suivra l'histoire de ce petit chevalier errant qui se promène, qui effectivement ne vient pas d'une grande famille. Et même si le premier épisode seulement est sorti, j'avais vraiment envie d'en parler parce que non seulement elle est chouette, mais elle casse complètement les codes. Mais avant ça, petit point sur les personnes impliquées, parce que c'est quand même une grosse production, on va pas se mentir. En créateur, on retrouve toujours évidemment R.R. Martin, qui effectivement était créateur de tous les spin-offs, toute la saga, qui écrit les livres en même temps. On a aussi en showrunner une petite nouvelle, Ira Parker. Elle n'a jamais travaillé sur aucun Game of Thrones avant. C'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment une nouvelle équipe là pour le coup. Pour effectivement les acteurs, on a Peter Duffy qui joue Dunk. Pareil, il n'a jamais joué dans aucun Game of Thrones. Et Dexter Hansel qui joue Egg. Fun fact, il ne s'appelle pas vraiment Egg.
Mais non.
Et on a effectivement aucun retour des acteurs connus à ce jour, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Je pense pas que ça empêchera les gens d'aimer, parce que c'était plus ou moins similaire pour House of the Dragon, mais c'est vrai que du coup c'est assez étonnant. Il n'y a pas vraiment encore d'énormes clins d'œil. Par rapport aux musiques, parce que pour moi c'est aussi ce qui a toujours fait le succès de Game of Thrones à mes yeux. Les thèmes sont toujours incroyables en parlant des maisons, et à chaque fois qu'on a un personnage qui revient, il y a toujours des indices dans la musique. Bah là, figurez-vous qu'étant donné que c'est un chevalier errant, il n'appartient à aucune maison. Il n'y a pas de thème qui revient qu'on peut reconnaître vraiment. Et en plus de ça, c'est un nouveau compositeur. Il faut savoir qu'historiquement parlant, sur les deux dernières séries qui étaient sorties, on a toujours eu le même compositeur, c'est-à-dire Ramin Djawadi, qui était là. Et là, non. Là, aujourd'hui, on a Dan Romer, qui est nouveau, qui n'a jamais travaillé sur Game of Thrones, et qui arrive. Mais vous allez sûrement reconnaître certaines des choses sur lesquelles il a travaillé. Je commence. Luca, de Pixar.
Ah oui, ok, d'accord, quand même.
Ouais, Superman et Lois. Il est pas nouveau. Et le remake Disney de Lilo et Stitch. Donc, en termes de gamme, eh ben, ça change de l'épique. Je vais pas vous mentir, ça change de l'épique. C'est pas mauvais. Et franchement, du premier épisode, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Les musiques sont incroyables. Je pense que si un jour vous avez envie de vous faire une petite balade, faut pas être timide. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'entend pas du tout, mais pas du tout, les grandes musiques habituelles épiques. On a juste une reprise du thème de base du générique. Le ta 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 da da. On l'a une seule fois, et c'est plutôt utilisé de façon ironique. Je sais pas si c'est un pied de nez, j'avoue que je sais pas s'il y a des histoires particulières avec Ramin qui ont fait que, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez étonnant venant d'une série. Parce que moi, à la base, je l'attendais pas particulièrement, cette série. Je suis juste passée sur Amazon Prime, parce que c'est sur Amazon. Non, pardon, je dis des bêtises, c'est sur HBO. Donc je suis juste passée sur Canal et j'ai vu genre Game of Thrones, The Night of the Seven Kingdoms, et j'ai fait ah, bah tiens! Donc j'ai commencé, mais franchement, gros succès, très sympa, très posé, et beaucoup de gens ont un peu gueulé pour la première scène. Moi, je l'aime bien. Je vais pas vous mentir, ça reste du Game of Thrones, ça reste du... je vais pas vous rendre la vie plus facile. Donc la première scène est déjà bien percutante, et ça fait du bien pour un retour, parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de leurs nouvelles, Game of Thrones. Et je pense que pour quelqu'un qui a jamais regardé la saga, ça peut être aussi très chouette de commencer dans les pas de Dunk, qui concrètement connaît personne, qui fait sa petite vie, c'est un petit chevalier. Je pense que c'est un peu comme effectivement regarder peut-être Le Seigneur des Anneaux ou un truc. Bon, bah tu commences avec un type qui connaît un petit peu de trucs, mais pas grand-chose, bah c'est bien. Sincèrement, hein, du premier épisode, Egg connaît un peu plus le monde alors qu'il a genre 8 ans que Dunk qui doit en avoir 25. Donc, vraiment, et il y a des raisons pour ça, il y a des grandes raisons pour ça, mais j'ai pas envie de tout spoiler.
Et ouais, pardon, vas-y. Quand tu dis qu'il casse les codes, parce qu'en fait, moi je pensais que du coup c'était. Il cassait les codes, que c'était plutôt une série humoristique du coup par rapport à Game of Thrones ou pas. Mais en fait, de ce que tu dis de la première scène qui visiblement.
C'est choquant, mais pas dans le même choquant. Game of Thrones, c'est beaucoup les intrigues de pouvoir.
C'est très politique.
Ouais, c'est super politique, de la violence aussi. Là, on est plus sur de la violence, mais juste après, c'est vraiment, gros spoil, attention, c'est la mort d'un chevalier errant et l'autre chevalier qui prend le relais après, du coup, Dunk. Et vraiment, on est en mode, bon, bah, on commence sur un meurtre. Très bien, c'est pas grave. Enfin, c'est un meurtre, non, juste une mort. Mais au-delà de ça, ouais, c'est pas que c'est pas humoristique. Mais que c'est beaucoup moins dramatique. C'est vraiment beaucoup plus genre, oh, on va suivre ces petites histoires, ça va être sympa.
Mais c'est plus une aventure épique.
Ouais,
que...
c'est ça. C'est vraiment plus genre, oh, une fable, un petit conte un peu avec des chevaliers. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce changement-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, en fait, de Game of Thrones sous des intrigues politiques et tout. Et je pense que ça peut toucher un nouveau public. Ce qui est franchement
en
bien.
En vrai, ça a l'air d'être vraiment intéressant.
Ouais, moi je trouve
coup.
Que ça a l'air
moi, j'ai
sympa.
J'ai adoré
ouais.
le premier épisode, j'ai pas vu le temps passer, sincèrement. Et ce qui est aussi perturbant, c'est que, enfin, pour moi, Game of Thrones, c'est les musiques, mais c'est aussi les génériques. Les génériques de Game of Thrones me font rêver, je les adore. Et ben là, figurez-vous que c'est vraiment juste genre, vous avez le titre, avec une petite musique. Il y a vraiment une coupure immédiate. C'est vraiment, ils se sont dit, on va pas vous mentir, on va pas vous faire croire que c'est pareil que les autres, c'est pas la même recette. Non, les gars. Et en vrai, bah, ouais, enfin, c'est une petite fable, c'est un petit conte, c'est sympa en fait.
C'est agréable à voir.
Ouais, ça rafraîchit un petit peu. En autre trivia, parce que je sens que vous avez vraiment envie de le regarder, les épisodes sortiront en Europe tous les lundis.
Ok.
Aux US tous les dimanches. Ah là, oui, je sais pas effectivement quelle est la concrète stratégie par rapport à ça. HBO étant une vraie chaîne télé quand même aux US, je pense qu'il y a un peu ce truc de genre les gens qui vont faire la série du dimanche.
C'est pas aussi peut-être parce que, tu sais, comme pour Netflix, qu'ils avaient le fait que ça sort à une certaine heure. Et du coup, en fait, juste par rapport à l'horaire où c'est lancé, c'est le lendemain, quoi.
Ouais, de toute façon, il y a toujours un décalage horaire. Et en fait, eux, là-bas, ça sera le dimanche et nous, ça sera toujours un jour en décalé.
C'est ça.
C'est
là,
comme les mises à jour de jeux vidéo, etc. Ouais, c'est pareil. En fait, ils te disent, par exemple...
Les anciennes séries, par exemple, je me rappelle House of the Dragon, si je me trompe pas, sortaient en France le jeudi. Ouais. Parce que eux, ils passaient le mercredi. Donc, il y a quand même un changement, je pense, en termes de vision et d'attente de la série, quand même, par rapport à ça. À voir comment ça va performer aussi avec le temps. De tous les cas, House of the Dragon n'est pas abandonné, parce que saison 3 et 4 arrivent.
Oui.
Mais ça, c'était quand même bien à savoir. Ça sort donc tous les dimanches jusqu'à février. Genre, mi-février, ça va s'arrêter, parce qu'il n'y a que 8 épisodes.
Ok.
Donc, un peu plus d'un mois, mais pas plus que ça. Effectivement, en tout cas, on est quand même sur du Game of Thrones. Super réalisation, super décor, les costumes sont magnifiques et on s'y croit, franchement. Mais Dunk a l'air bien plus sympa que pourrait l'être un Tywin Lannister. Donc peut-être que ça peut être mieux pour commencer la série.
Peu étonnant,
aussi.
Peu étonnant.
Dans certains réalisateurs d'épisodes annoncés, on a aussi. Owen Harris, qui est celui qui a réalisé des épisodes de Black Mirror.
Oh.
Je sais pas ce que ça annonce, mais c'est intéressant, certainement. Toute une nouvelle équipe.
C'est-à-dire qu'il est doué aussi.
Ah oui, non, de fou. Puis toute une nouvelle équipe, un nouveau compositeur. Moi, j'en attends beaucoup de renouveau. J'aime bien le fait qu'il rejoue avec... en fait, avec ce monde qu'on connaît de ouf, mais qu'on connaît pas tant que ça. On connaît que du point de vue des hauts. Et aussi, je voulais vous annoncer que le projet de la série sur Jon Snow est effectivement abandonné. Hein. Donc,
j'ai envie de te dire.
Alors là, tu vois, je viens de faire la même tête que toi pour Prince of Persia. Comment ça?
Officiellement annoncé, ils ont annoncé qu'ils ne feraient pas le spin-off sur Jon Snow, ce qui à la fois ne m'étonne pas parce que je pense pas qu'il y avait beaucoup de choses à raconter dessus.
Je suis le seul qui en a rien à foutre.
Bah non, moi aussi j'en ai rien à foutre. Parce que déjà l'acteur en lui-même l'a annoncé, effectivement.
Bah, c'est vrai qu'on entend. Plus trop parler
non, ça faisait des années que ça avait été attendu. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes avant que la finale de la série sorte. Et comme il y a eu beaucoup de déceptions, peut-être aussi qu'ils ont senti que le personnage en lui-même serait un peu entaché par ça.
Bah, moi, il a été entaché, l'acteur n'a pas aimé la fin, comme
ça.
L'acteur de Daenerys. Donc à mon avis, il y a aussi un côté, l'actrice de Daenerys. Donc je pense qu'il y a un côté aussi où genre, peut-être vouloir passer à autre chose.
Je pense que c'est ça. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que pour moi, la série a réussi son essai parce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on n'en a pas rien à faire de Dunk au final qui se balade? Moi, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer sur Dunk. J'ai envie que ce soit mon petit chouchou.
Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, en fait, on voit dans Game of Thrones et même dans House of Dragons, même si j'ai pas vu, je sais de quoi ça parle.
Ouais.
C'est, on va pas se mentir, c'est des grosses familles, des nobles, des puissants, vraiment des gros puissants. C'est très interne au palais, au château, au village, etc., aux villes, aux familles. Et donc là, de voir que bah, dans ce monde très politique, très dur...
Il y a juste des gens qui vivent, en fait.
Ouais, les petites gens.
Il y a quand même des petits gens qui font leur vie.
C'est ça.
Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant.
C'est chouette.
Et ouais, c'est super chouette qu'il y ait aussi ce petit côté... Bah, ouais, dans l'univers Game of Thrones, il n'y a pas que du drame.
Je pense que ça alors, a bien marché pour ça aussi.
Ça reste du Game of Thrones.
Ça
reste du Game of Thrones. Je pense qu'il y aura quand même.
C'est vrai, mais il y a ce côté un peu des contes arthuriens où c'est vraiment genre le chevalier errant qui est là. Il a juste pour projet de genre vivre sa vie, aider les gens, dormir dans la nature. Et c'est grave son quotidien pour lui, c'est normal. Alors que nous, on avait tous ces grands châteaux et tout.
Je sais pas
si on en verra autant parce que là, pour l'instant, j'en ai vu aucun en un épisode, ce qui est quand même pas habituel.
Oui.
Et ça, c'est vraiment chouette. Et les grands qu'on nous montre, c'est pas des vrais grands, c'est juste genre le chevalier de telle maison. Et ça, j'adore. Ouais. Et pour terminer, Aegg, parce que c'est pas vraiment un spoil, c'est un Targaryen. 90 à 100 ans avant Game of Thrones. Et ça va être chouette.
Ah, ok, d'accord. Ça, par contre, j'ai vraiment envie de voir. On va devoir passer à autre chose.
Voilà,
je suis désolée.
Il
n'y
a pas de souci.
Mais en tout cas, ça m'a beaucoup hype. Est-ce que vous, ça vous a hype, ceux qui nous écoutent? Bah, n'hésitez pas à nous le dire.
Oui, et puis si effectivement vous avez envie, je vous ferai peut-être un petit point sans spoil toutes les deux semaines sur les deux épisodes que nous avons loupés à chaque fois.
Parfait. Bah écoutez, on va tout de suite passer à la deuxième musique. La deuxième musique s'appelle Not Cry de Oyo, parce que c'est une musique qui a été choisie par Mel et qui est une musique qui vient de Genshin.
Qui vient de Genshin Impact et qui est chantée par Aurora.
Wouh, voilà. J'adore.
Ouais. Probablement que la semaine, dans deux semaines, je vous parlerai de Nimbus Company aussi, parce que ça m'a fait changer d'avis sur un autre style de jeu sur lequel je crachais beaucoup. Allez, à tout à l'heure. de retour, c'était notre crime de Oyo.
Et de Aurora.
Et de Aurora. Et du coup, on va se retrouver pour la dernière chronique de cette émission, qui est du coup la chronique Lance les dés. Et aujourd'hui, on va parler de quoi dans Lance les dés? On va parler...
De lancer des dés.
De lancer des dés, évidemment. Parce que...
Est-ce que vous lancez vos dés? Est-ce que vous lancez avec la main droite, la gauche ou les pieds?
Exactement.
Les deux en même temps.
Bah moi, avec les pieds.
Ouais.
J'adore avec les pieds. Avec la bouche aussi,
j'adore
c'est pas
les
mal.
Pieds.
Vous savez qu'il y avait des dés...
J'adore les pieds. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Vous saviez qu'il y avait des dés en sucre qu'on peut lancer, du coup, bah, si les dés sont pas bons, bah...
Hein. Ça veut aussi dire que genre, si tu sues des mains...
Non,
mais quelle aura.
Juste pour la vanne de lancer les dés, avoir un mauvais jet, manger les dés devant tes potes, juste...
À ne pas faire si vous êtes diabétique, n'est-ce pas?
Mais... Mais...
Ça, c'est une réaction un peu dramatique, si tu
peux. Voilà. Oui. Et un tout petit peu exagéré. Mais aujourd'hui, on va parler des lames du cardinal. Qu'est-ce que c'est, les lames du cardinal? C'est un jeu de rôle français, si je ne m'abuse, qui a été écrit par Pierre Péfel. Et qui, du coup, est dans le genre fantasy historique, KPDP. Je suis en train de faire un vrai effort pour rester concentré. C'est très dur, sachez-le. Mais, et dans l'ambiance, c'est du coup tout ce qui va être trois mousquetaires sous stéroïdes, avec des dragons. Mais, cependant, du coup, pour tout ce qui est visuel, on va être dans l'appareil du XVIIe siècle avec Louis XIII, Richelieu, tout ça. Le petit twist, c'est qu'il y a des dragons dans le ciel de Paris. Vous voyez, genre, Alexandre Dumas qui a couché avec Tolkien?
Je me rappelle pas de ce moment historique.
Moi, je m'en rappelle. C'était ça, j'étais là.
Son enfant, c'est les lames du cardinal.
À la maternité, il savait plus trop quoi dire.
Voilà, c'est ça. Bah, l'auteur, c'est Pierre Pével. Il est connu pour être vraiment quelqu'un de très, très, très bon dans son milieu. Il a eu le prix. Il a eu prix Imaginal. Il a eu pour parce que ça a été un succès genre international. Ça a été un succès international et comme beaucoup de jeux de rôle qui ont un succès international, les éditeurs ont décidé d'arrêter de publier putain de jeux de rôle.
Donc on est bien d'accord que c'est ce jeu où on est allé en boutique parce que tu le voulais sur ta wishlist de Noël que j'ai cherché et qu'on m'a dit ah mais oui mais la seule édition qui reste c'est celle-ci et c'est une édition certes magnifique mais qui coûte zamballe.
Et surtout un jour je vais faire une chronique qui va parler des éditeurs dans le jeu de rôle et je vais avoir des mots à dire parce que bordel de merde. Revenons au sujet principal. Du coup, le pitch, c'est que l'Europe est en guerre, les dragons sont partout, c'est devenu des animaux de compagnie, des montures, mais qu'il y a aussi certains dragons qu'on appelle les dracs qui sont des petits connards qui prennent la forme d'êtres humains et qui... s'infiltrent, nous espionnent, nous fourbent. Ils sont parmi nous, ils essayent. Ouais, bref.
Tu descends dans une pente.
Et du coup, la personne qui est au-dessus de nous, il s'appelle Richelieu. Ici, ce n'est pas un méchant, il protège la France. La France. Et du coup, nous jouons du coup des lames qui sont du coup soit des anciens soldats des lignes, des soldats, des duellistes, des personnes qui se sont fait traîner dans la boue et qui vont revenir. Dans un sens, on est un peu genre une Suicide Squad, mais genre version 17e siècle. D'un point de vue purement historique, tout ça, bah du coup, c'est un des gros points forts, c'est que disons que la personne, on voit qu'elle aime ça et du coup, en fait, c'est très très immersif. Il y a beaucoup de descriptions avec des odeurs, des costumes qui sont très réels, et qui sont plausibles pour le 17e siècle.
Il a vraiment senti ces costumes.
Oui. Ouf. Oh là là. Ça sentait la peste. Mais on peut y croire. Et du coup, bah, si on aime bien tout ce qui va être style KPDP, bah en fait, la plupart des visuels et de tout ce qu'on va pouvoir faire dedans, que ce soit dialogue, duel, sur l'étoile ou tout ça, bah il n'y a pas de temps mort et du coup, c'est très agréable à jouer. La magie, pour une fois, il n'y a pas de baguette. La magie, il y est directement au sang des dragons et c'est plus quelque chose qui n'est pas très recommandé et pas très recommandable. La magie est en prix, ce qui fait que c'est. Alors, peut-être tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais je pense que la magie dans un univers doit avoir un coût qui est un coût réel et pas juste pouvoir, à part si c'est de la low fantasy, genre Donjons et Dragons où là tu peux balancer une boule de feu avec ton cul, mais voilà, dans un univers qui veut être en minimum sérieux avec des gros enjeux, de la magie doit avoir un coût. C'est quelque chose qui est mon avis. Après, je peux comprendre qu'on n'est pas d'accord. Mais voilà, sinon, d'un point de vue purement des points faibles, c'est que. Comment dire ça? C'est dense. c'est très très dense. Genre, il y a beaucoup de personnages. On va croiser Lafargue, Mariac, Lebras, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
le
de personnages.
Le 4 quarts, il est complet, quoi.
Voilà, le 4 quarts, il est complet. Le 4 quarts, quand tu le manges, c'est une brique et t'es en mode ouf. Du coup, pendant les 50 premières pages, où on peut. Voilà, faut s'accrocher. Ça parle beaucoup d'espionnage aussi politique. Et faut rester concentré parce que c'est trahison, complot et tutti quanti. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de trahison et de complot que les joueurs doivent être des traîtres et des comploteurs. Je rappelle que jeu de rôle est un jeu qu'on joue en équipe où tout le monde doit s'amuser et que les gens qui jouent des traîtres parce que oh lol, je vais gâcher la partie des autres. Vous avez une place en enfer et je vous conchis.
Il avait des choses à dire là.
J'ai l'impression que c'est ciblé, mais
j'ai l'impression que c'est ciblé.
Ça m'est déjà arrivé et c'est un ami, mais je le conchis.
Tu le conchis.
Je le conchis parce que voilà, 17e siècle, tout ça. Et enfin, on risque d'être un peu perdu. C'est surtout ça. Après, bon, c'est pour qui est-ce que je conseillerais le jeu de rôle? Pour les fans, de tout ce qui est KPDP, pour les fans de Dumas, typiquement, genre tout ce qui va être film d'aventure aussi, avec de la magie qui aime pas trop être voyante et qui a un certain coût. Faut savoir que les Lames du Cardinal, c'est tiré dans de bouquins, c'est tiré d'une trilogie. Est une trilogie qui est du coup finie et qui est, c'est en folio SF et qui est chez Bragelonne. Je ne connaissais pas Bragelonne.
Et c'est écrit par l'auteur de celui
je
qui
crois,
a fait
oui,
le JDR
oui, c'est
aussi.
Ça. Okay. C'est ça. Le mec qui multicasquette et c'est assez... C'est voilà. Mais il faut savoir que le petit plus aussi, c'est que l'univers est devenu vraiment culte et du coup, ça fait l'univers du roman est devenu culte. Et du coup, ça fait un jeu de rôle, mais ça aussi fait une BD. Donc si vous voulez essayer de connaître un peu plus l'univers, vous pouvez aussi aller voir vers la BD. Il me reste encore quelques minutes et du coup, je vais en profiter pour arrêter de déconner un peu et je vais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour le coup. C'est que, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont des jeux de rôle qui ont eu des prix, qui ont eu des vrais succès en fait pour le coup. On va parler de lui notamment, on va parler de Tales from the Loop qui sont des jeux de rôle qui ont eu parfois 10 prix, hein. Et qui sont des jeux qui sont encore recherchés par les consommateurs. Et on ne sait pas pourquoi, mais les éditeurs ont décidé du jour au lendemain d'arrêter de faire ça. On a un vrai problème avec le jeu de rôle, que ce soit en France en tout cas, parce que moi je connais en France, où on a très peu d'éditeurs de jeux de rôle, et ces éditeurs ont une espèce de... Comment dire? Ils ont un vrai droit de regard. En fait, quand tu leur donnes ton truc, tu perds ton droit et ils peuvent l'arrêter du jour au lendemain. Je trouve ça dommage. Parce que aujourd'hui, on va parler de Donjons & Dragons, on va parler de Pathfinder, on va parler de Cthulhu qui sont très bien, hein. Mais en fait, on a tellement, en France notamment, de bons créateurs de jeux de rôle que les voir en fait se faire étouffer comme ça, premier degré, ça me rend triste.
Et moi j'ai une question du coup, j'ai deux questions pour les Lames du Cardinal. Comment t'as pu y jouer ou
accéder au...
Comment
en fait,
t'as pu y accéder
j'ai pas
vu que j'ai pas
jouer,
pu t'offrir
en fait,
le
moi
truc.
J'ai pu y accéder parce que j'ai un ami, coucou Zizur, qui en fait a été dans une convention de jeux de rôle qui se passe dans le sud de la France, où un jour j'irai sûrement. Et il a pu y jouer, et en fait on a pu y en parler pendant très longtemps. Je suis avec quelqu'un qui n'aime pas tellement le jeu de rôle que ça. Et il a directement accroché, du coup, j'ai dit...
Attends, il n'aime pas les jeux de rôle, mais il a été dans une convention
en fait,
de jeux de rôle.
Il n'aime pas tous les jeux de rôle. Il n'aime pas genre Donjons et Dragons, par exemple. Mais du coup, il a vachement accroché, du coup, j'ai commencé à m'y accrocher. Et en fait, le jeu de rôle a l'air d'être génial. J'en parle, j'y ai jamais joué. Ouais. J'ai
mais
juste
c'est
vu
que le jeu a l'air bien. Quand j'avais demandé des conseils au vendeur à la boutique où j'avais été pour te l'offrir, et il m'a dit, mais le problème, c'est qu'en fait, ils feront plus que des éditions comme ça. Et encore, ce ne sera pas tout le temps édité.
Parce que ça coûte
et
super cher.
C'est 100 balles le coffret. Alors, le coffret est magnifique, il y a tout dedans. Mais c'est 100 balles, c'est un coût quand même. Faut avoir l'argent pour le faire.
Ça devient très élitiste. Quoi.
Mais, et c'est ce que j'allais dire, ma deuxième question, c'est est-ce que les éditeurs ne font pas ça pour avoir ce petit côté un peu élitiste, de se dire, les Lames Cardinales, c'est un truc élitiste.
On pourra en parler une autre fois, parce que là, je vois le temps, et du coup, en fait, on est en train de dépasser.
On n'a pas assez le temps.
Mais de toute façon, je pense que dans deux semaines, ce sera ma grosse chronique où on parlera que de ça. Le jeu de rôle est devenu est en train en fait de se démocratiser. Du coup, il y a plein de trucs qui font ça. Mais bon, bref, là, je vois qu'on est déjà en un certain temps. Donc, on va devoir s'arrêter là. Mais je trouve ça dommage. On en parlera après. On parlera des GDR auto-édités. Dans deux semaines. Sur ce, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de journée. En tout cas, moi je vous la souhaite, Mel.
Ouais, bonne soirée. Amusez-vous bien et à bientôt.
Faites ce que vous aimez pour le reste de la semaine. Profitez bien et puis n'hésitez pas à réécouter nos émissions si on vous manque trop, j'ai envie de dire.
Exactement.
Et allez sur notre site qui arrive.
Il est à jour. Il arrive bientôt. On vous laisse avec le Disbag. Des bisous tout le monde. À dans deux semaines.
À dans deux semaines.
羽ばたいたら戻らないと言って目指した